Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Deutéronome. Alors, dimanche dernier et dimanche prochain, je crois même, le thème d'adoration, c'est sur la reconnaissance au Seigneur, ne pas oublier ses bienfaits. Et donc, c'est le mois, peut-être dans certains pays, où on exprime la reconnaissance à Dieu. Pourquoi pas le faire aussi? Et le frère Jean-Pierre, j'allais dire l'apôtre Jean-Pierre, mais le frère Jean-Pierre, l'apôtre Pierre, le frère Jean-Pierre nous en a parlé ce dimanche avec le texte des lépreux et de la nécessité pour nous de rendre grâce à Dieu. Mais je voudrais, en guise d'étude, ce soir, reprendre un texte qu'on connaît déjà bien dans le Deutéronome, chapitre 8. Et dans ce même esprit, dans le Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Et on va lire à partir du verset, tout le chapitre, verset 1 jusqu'au verset 20, Deutéronome, chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Et donc ça c'est Moïse qui fait un rappel au peuple d'Israël qu'il est le peuple est sur le point d'entrer en Canaan après avoir passé 40 années de pérégrination dans le désert parce qu'ils n'ont pas, rappelez-vous ça, parce qu'ils ont refusé de prendre possession du pays lorsque les espions étaient partis là-bas, ils sont revenus, ils ont été découragés et puis Dieu a ajouté 40 années pour toute une génération a péri dans le désert. Et là, il se trouve au bout de ces 40 années sur le point de rentrer dans le pays. Et donc, Moïse fait ce rappel au peuple et il dit au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. » Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais que en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras se multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, ou s'accroître tout ce que qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà, donc ce texte bien connu, qu'on pourrait résumer en une petite phrase, en une seule exhortation, à laquelle vous pensez, si on devait la résumer en une seule exhortation? Oui? Garde-toi, on pourrait rajouter même, garde-toi d'oublier Dieu. Hein? Garde-toi d'oublier Dieu. Les circonstances du peuple vont changer, n'est-ce pas? Et ils vont passer du désert aride, affreux, on l'a lu au verset 15, où ils ont manqué de pain, où ils ont eu faim, etc., à un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Les circonstances donc vont changer, les circonstances de ce peuple vont changer. Et donc Moïse va leur parler. On peut regarder d'abord une petite comparaison entre les circonstances, le changement de circonstances que ce peuple va connaître. Si on relève quelques aspects de ce qui est dit ici, il est question d'une précarité passée, hein, dans le passé, qui est exprimée par exemple au verset 3 par la faim. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et donc, voilà, c'est ça qu'il dit ici. Le châtiment de Dieu aussi au verset 5, il dit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Donc, ils ont subi non seulement une espèce de privation, on pourrait dire matérielle, mais en même temps, ils étaient sous le coup du châtiment du jugement de Dieu. Le chapitre 15 parle de désert affreux, de serpents, de scorpions. Et il dit même, je crois, de manque d'eau. Hein. Il dit des scorpions dans des lieux arides, au verset 15, et sans eau. Et sans eau. Et donc c'est quelque chose qui était quelque chose de terrible. Ce n'était pas une 40 ans juste d'attente avec tout le confort. C'était vraiment 40 ans de situation très, très difficile. Et donc Moïse dit à ce peuple, maintenant, vous allez entrer dans un pays prospère. Regardez le verset 7, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Imaginez le contraste, hein? Une terre aride, sans eau, et puis maintenant, des lieux où il y a c'est pas simplement qu'il y a de l'eau, mais c'est des sources même d'eau qui vont jaillir et qui vont couler. Une bénédiction radicalement qui est loin aux antipodes de ce qu'ils ont connu avant. Au verset 8, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier, pays d'olivier et de miel. Verset 9 exprime encore la même chose. Tu mangeras du pain en abondance. Verset 12 aussi exprime lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, tu habiteras aussi de belles maisons, tu travailleras ton menu bétail, ton gros bétail va se multiplier, ton or et ton argent va s'accroître. Donc c'est vraiment la prospérité qui est promise ici au peuple. Et donc on note un changement, on pourrait dire radical, avec la vie des 40 ans passés. Alors Moïse avertit le peuple de la part de Dieu sur un risque en particulier. Un risque qui est lié à ce changement de situation et qui est le risque que nous pouvons tous aussi connaître, peut-être que nous avons connu, peut-être dans lequel nous sommes tombés. Il dit, Moïse avertit le peuple ici sur ce risque majeur que l'amélioration des circonstances entraîne. Oubliez Dieu lorsque la prospérité vient. Ici, il est verset 11. Regardez le verset 11. Ici, il dit, garde-toi d'oublier. Le verset d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au verset aussi 14, il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Donc garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au verset 19, il dit, enfin, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a ici un appel retentissant à ne pas oublier, à ne pas oublier Dieu. Alors nous disons parfois, jamais je n'oublierai ce que Dieu a fait pour moi. Mais ce n'est pas ce que Moïse dit. Il ne dit pas au peuple, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Il dit, n'oubliez pas le Dieu qui a fait pour vous toutes ces choses. Et c'est ça qu'il souligne ici. Il dit, n'oubliez pas Dieu. Le risque, c'est d'oublier Dieu lui-même. Parfois même en se souvenant de ce que Dieu a donné, en disant merci à Dieu pour ce qu'il a donné, mais en oubliant Dieu lui-même dans ce que l'on vit. Alors, comment cet oubli se manifeste, peut-il se manifester? Comment Moïse caractérise l'oubli que le peuple peut avoir? Comment est-ce qu'on oublie Dieu? Comment est-ce que ça peut se manifester? Verset 11, si on regarde le verset 11, il dit ici, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand les circonstances changent parfois, que la prospérité fait place à la précarité, eh bien, il y a le risque d'oublier la parole de Dieu, d'oublier les commandements de Dieu, d'oublier de les mettre en pratique. C'est ce que Moïse souligne ici. Garde-toi d'oublier les commandements de Dieu. L'abandon ou l'éloignement de la parole de Dieu est l'une des premières marques de l'oubli de Dieu. Quand on commence à négliger sa parole, quand on commence à négliger, à se soumettre à sa parole, c'est à Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même que l'on oublie. On oublie Dieu si on ne met pas sa parole en pratique. C'est ce que Moïse dit ici. Garde-toi d'oublier Dieu en n'observant pas ses commandements. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont oublié Dieu en se détournant de sa parole. Ils étaient focalisés sur le serpent et ils ont oublié Dieu et tout ce qu'il a dit. D'accord? Donc ça, c'est l'une des manières par laquelle on oublie Dieu, parce que la communion avec Dieu se fait toujours par sa parole. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans sa parole. Quelqu'un qui dit, moi, je suis en communion avec Dieu, mais qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne sait pas ce qu'il y a dans la parole de Dieu, qui n'étudie pas la parole de Dieu, qui ne s'en imprègne pas, qui ne la met pas en pratique dans sa propre vie, ne peut pas dire qu'il est en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible, parce que c'est par sa parole que nous pouvons être en communion avec lui. Et donc, oublier Dieu, c'est oublier sa parole. Deuxième manière, on peut voir, donc ça c'était le verset 11, deuxième manifestation très caractéristique de l'oubli de Dieu. Regardez au verset 14, il dit, prends garde à ton cœur, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Donc, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies. Donc, c'est quoi ici, selon vous, la manifestation de l'oubli? Comment est-ce que ça se manifeste? Par de l'orgueil. Hein? Ton cœur s'enfle et tu oublies. Quand le cœur s'enfle d'orgueil, eh bien, on finit par oublier. Et Moïse prévient le peuple contre cette tentation de l'orgueil. Les circonstances confortables sont propices souvent à l'arrogance et à la prétention. Quand les choses vont bien, on peut se dire, c'est après tout, c'est grâce à moi que les choses vont bien. Et la richesse entraîne parfois de l'arrogance et de l'orgueil. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 6, 17, on avait étudié ça dans le temps, pendant l'époque Covid, je crois, 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Parce que la richesse peut entraîner l'orgueil. « Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Vous voyez ici le travers, là, ici, c'est-à-dire qu'on peut déplacer l'intérêt que l'on a de Dieu vers ce que Dieu donne. Il dit, aux riches, de ne pas être orgueilleux et de ne pas placer... L'orgueil ici consiste à placer sa confiance dans ce que l'on a. Et de dire, voilà, c'est grâce à moi, etc., ou des choses comme cela. Hein. Eh bien, il dit ici de ne pas mettre leur confiance dans les richesses, mais de la mettre en Dieu qui donne les richesses. Donc, il n'est pas contre les richesses, il n'est pas contre la prospérité, mais il dit, attention, il y a un risque d'oublier Dieu en mettant notre confiance dans les choses que nous avons, en se croyant en sécurité parce que l'on a, parce que le compte en banque est bien garni, parce qu'on a une maison, deux maisons, je ne sais pas, ou parce qu'on est en bonne santé, ou des choses comme cela. Et donc Dieu dit, Moïse dit, attention, ça c'est un moyen par lequel vous pourrez oublier Dieu. Il y a encore un autre moyen dans le même verset 14. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc là ici, on pourrait dire que oublier Dieu, on peut oublier Dieu en minimisant l'œuvre de la rédemption. Quand la Bible parle, vous savez, de que Dieu fait sortir le peuple du pays d'Égypte, c'est l'image de la délivrance, hein, de l'exode, c'est ça, hein, l'image de la délivrance, l'image du salut, l'image de ce que Dieu nous prend, nous tire de la domination du péché pour nous amener, hein, nous amener à lui, la délivrance, la rédemption. Il dit, n'oublie pas ça. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, tu risques de l'oublier en minimisant l'œuvre de la rédemption. Et donc quand on s'attache aux circonstances, d'accord, ou bien à la délivrance, par exemple, simplement, qui est accordée. Quand on s'attache, je veux dire, aux circonstances, la délivrance que Dieu a accordée, parfois, elle devient secondaire. Et on a vu, parfois, dans des occasions, hein, des personnes être tellement enthousiastes de la guérison qui leur a été apportée dans leur corps que tout leur témoignage ne consiste qu'à parler de la guérison reçue. Et pas forcément de Dieu. C'est-à-dire que le centre de l'adoration, il est déplacé, il quitte Dieu pour aller vers la guérison. Et la guérison devient quelque chose de très important. D'accord ? Il faut qu'on reconnaisse ma guérison, il faut qu'on reconnaisse ces choses-là. Dieu a fait quelque chose, mais on est fixé sur cette chose, cette guérison que Dieu nous a donnée, plus que sur la délivrance spirituelle que Dieu a accordée. Je crois que c'est ça ici le sens. Il est important pour le peuple qu'ils se souviennent du salut que Dieu leur a accordé. Ils étaient des esclaves en Égypte et Dieu les a rendus libres pour qu'ils puissent avoir une relation avec lui et pour qu'ils puissent le servir, hein, Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est ça que Dieu a dit à Pharaon. Et c'est cette délivrance qu'il a opérée, qui est image de la délivrance que nous connaissons sous la Nouvelle Alliance. Et c'est vrai qu'il arrive trop souvent qu'un bienfait, matériel accordé par Dieu devienne le centre de toute notre adoration. Ça peut arriver. Au détriment du salut que Dieu accorde. Donc Moïse dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et puis une quatrième manière aussi par laquelle on peut oublier Dieu, c'est au verset 17. Verset 17 dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi, verset 18, de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est quoi cette quatrième manifestation de l'oubli de Dieu là ici, selon vous? Comment est-ce qu'on peut la définir? Oui? J'ai entendu un petit murmure doux et léger. Je relis, hein, il dit, garde-toi d'oublier de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Oui, c'est ça, compter sous sa propre force. Oui, c'est ça, très bien. Et puis si on regarde avec le verset 18, il dit, souviens-toi, donc ça veut dire qu'on n'oublie pas, de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui. Vous voyez le contraste ici? Il dit, garde-toi de dire, c'est moi. C'est ma force, mais rappelle-toi de dire, c'est Dieu, c'est lui qui a fait la chose. C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Et quand on oublie Dieu, c'est quand on commence à dire, c'est moi. C'est moi. Okay. Alors parfois on dit pas c'est moi comme ça avec la bouche, mais on peut le dire par des agissements, etc. Et l'homme qui oublie Dieu finit toujours par penser que les bénédictions ont été acquises par ses propres efforts. Si Moïse dit ça au peuple, c'est-à-dire si Dieu dit cela au peuple, que Dieu dit à Moïse de dire cela au peuple, c'est que Dieu sait que dans la prospérité que va connaître le peuple, la tentation humaine consiste toujours à oublier Dieu en pensant que les choses, nous les avons acquises par nos propres forces. C'est toujours dangereux. Par son travail, par son intelligence, par ses sacrifices. J'ai étudié ces choses, donc c'est pas, j'ai pas dormi. Hein. Oui, certes, mais la Bible dit, mais c'est Dieu qui te donne la santé, qui te donne la force, qui te donne toutes ces choses. L'intelligence, c'est lui qui te la donne, etc. Donc tout ce que l'homme peut faire, il ne le peut le faire que par ce que Dieu lui donne comme grâce. Et donc il ne faut jamais oublier cela. Et Dieu sait que c'est un risque pour le peuple qui vit dans la prospérité. Et nous vivons dans une période dans un lieu de prospérité. D'accord ? On peut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins riches. D'accord ? Mais nous sommes riches. Hein ? Si nous entrons chez nous, nous avons une maison pour rentrer ce soir. Parfois, nous n'avons même pas besoin d'attendre un bus. Hein, il y a quatre roues qui nous attendent quelque part. Hein, et puis, on va, on ouvre le frigo, on peut manger. Il y a des pays dans le monde où ça n'existe pas du tout. Ça n'est beaucoup plus qu'on ne croit. Hein. Il y a des endroits qui sont détruits par la guerre, par la famine, par beaucoup de choses comme cela. Eh bien, nous vivons dans les circonstances qui sont décrites ici par Moïse. Hein. D'accord ? Le gros et le menu bétail se multiplient, l'argent et l'or augmentent, s'accroît, et toutes ces choses-là. Eh bien, nous pouvons oublier Dieu en usurpant, c'était ça le quatrième point, en usurpant la gloire qui revient à Dieu, en usurpant la gloire qui revient à Dieu. Donc je résume ces quatre petits points ici que l'on peut Il dit « Oubliez Dieu en abandonnant sa parole, oubliez Dieu en développant un cœur orgueilleux, oubliez Dieu en minimisant l'œuvre de la rédemption, et puis oubliez Dieu en usurpant la gloire qui revient à Dieu. » Puis pour terminer, qu'est-ce que Moïse donne comme antidote à l'oubli, contre l'oubli? Qu'est-ce qu'il donne comme remède, on pourrait dire, oubli? Quelles sont les recommandations que Dieu lui donne pour le peuple, pour l'aider à lutter contre l'oubli de Dieu? Eh bien, premièrement, si on regarde au verset 10, il dit « Lorsque tu mangeras et te rassasiras », au verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » D'accord ? C'est ce qu'on a vu dimanche, hein ? La reconnaissance au sein de la prospérité. La reconnaissance au sein de la prospérité. Tu béniras l'Éternel lorsque tu seras dans ton abondance. C'est-à-dire, tu vas te souvenir et tu vas remercier Dieu pour cela. D'accord ? Tu vas le louer parce qu'il t'a béni ainsi. Tu vas reconnaître que c'est grâce à lui que tu as toutes ces choses. Tu vas le dire, tu vas le proclamer, que cela vient de lui et que ça n'est pas simplement par toi que cela vient. Et donc, on a vu l'exemple des 10 lépreux, hein, dimanche dernier, qui nous rappelle cette vérité. Et puis, on a cité aussi, je pense, Romains 1, 21, qui nous dit que l'absence de reconnaissance est une marque aussi d'impiété. Et donc, la reconnaissance au sein de la postérité. Deuxième remède que Moïse donne, c'est se souvenir du temps de la précarité. Quand on est dans l'abondance, se souvenir du temps où on n'était pas dans l'abondance. C'est ce qu'il dit ici. Regardez au verset 2. Souviens-toi, ça commence comme ça, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et donc, Moïse dit au peuple qu'il faut qu'il se souvienne de ces 40 années. Ils ne doivent pas oublier ces 40 années dans le désert. Et sur l'ensemble du passage, Dieu insiste vraiment pour que le peuple, une fois établi dans la prospérité, ne fasse pas une croix sur tout ce qui est passé. Qu'il se souvienne du temps de la précarité. Pourquoi est-ce qu'il veut que le peuple se souvienne de cela? Regardez comment il dit ça au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Il faut se souvenir de la précarité, du temps de la précarité, parce que c'était le temps de la précarité était la volonté de Dieu. Il dit « Ces 40 années que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. » C'est Dieu qui a fait faire ces 40 années dans le désert. Donc, la précarité était la volonté de Dieu pour le peuple quand il a vécu. Ces 40 années, c'est Dieu qui a imposé ces 40 années. Il aurait pu faire 10, il aurait pu faire 15, il en a fait 40. Et c'est lui qui a imposé les circonstances même dans lesquelles le peuple a vécu. Il dit, je t'ai fait souffrir de la faim, je t'ai mis sans eau, je t'ai humilié. Il dit. Et Dieu dit qu'il l'a fait. Donc, c'est vraiment Dieu qui a fait ces choses. Et donc, ce souvenir de la précarité... Se souvenir, il faut que le peuple se souvienne que la précarité, c'était la volonté de Dieu. Et donc, tous ces chemins, tout ce par quoi ils sont passés, n'étaient pas des choses accidentelles. Et donc, les circonstances difficiles font aussi partie du plan de Dieu. Ça, c'est une première chose. Et puis, se souvenir aussi que Dieu poursuivait un but dans la précarité. Dieu poursuit toujours un but dans ce qu'il fait. On dit qu'il ordonne toutes choses pour les faire répondre à sa volonté. Se souvenir que Dieu poursuivait un but au sein de la précarité. Dieu avait un plan, un but dans tout ce qu'il fait. Afin que, voyez le verset, il dit, verset 2, dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années de le désert, afin de... » Donc ça montre qu'il y a un but que Dieu poursuit. Il y a un objectif qu'il poursuit. Et c'est quoi cet objectif? Eh bien, c'est de révéler au peuple le propre état de son cœur. Et le peuple avait besoin, Dieu n'a pas besoin de connaître l'état du peuple du cœur. Parce que le verset écrit dit, il t'a humilié, il t'a fait, verset 3, souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Il dit, afin de t'apprendre, Donc c'est l'homme qui avait besoin d'apprendre quelque chose. Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais au verset 2, il dit, « Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Donc d'abord, il montre ici que la précarité était pour révéler au peuple même le propre état de son cœur. Dieu discerne l'état du cœur de l'homme, quelles que soient les circonstances de sa vie. Il peut le discerner, l'état de son cœur, quand il est dans la prospérité et quand il est dans la précarité. Mais l'homme ne parvient pas à discerner le propre état de son cœur, surtout quand il est dans la prospérité. Il ne sait pas quel est vraiment l'état de son cœur devant Dieu. Quand il est dans la précarité, quand il est sous la pression, quand il est dans la difficulté, c'est là qu'il apprend à se connaître vraiment. Et ce qui sort montre ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il veut que le peuple connaisse, il dit, afin de t'humilier et de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de savoir ça, n'est-ce pas ? C'est l'homme lui-même qui a besoin de savoir, et c'est nous qui avons besoin de savoir ce qui est dans nos cœurs. Et donc, les circonstances difficiles sont vraiment propres pour nous permettre de nous connaître un petit peu mieux, de savoir quels sont nos besoins, comment nous avons besoin de nous approcher de Dieu davantage. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde ici, c'est que Dieu voulait aussi rendre le peuple dépendant de sa parole. Il dit ici, hein, il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, la soif, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc dont le peuple avait besoin, c'est de savoir aussi combien est importante la parole de Dieu, plus que le pain. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, l'homme mange du pain parce que Dieu a dit que l'homme mangera du pain. C'est-à-dire, c'est par la parole de Dieu que l'homme mange du pain. Si Dieu avait dit, l'homme mangera des cailloux, eh bien l'homme mangerait des cailloux, parce que Dieu ferait que les cailloux soient comestibles. Et donc, c'est la parole de Dieu qui prime par-dessus tout. Et le peuple doit savoir que plus que le pain, c'est de la parole de Dieu dont il a besoin. Que Dieu peut faire sortir du désert n'importe quoi pour le nourrir. Et ce n'est pas dans le pain qu'il doit mettre sa confiance, mais il doit mettre sa confiance dans la parole de Dieu, qu'il doit apprendre à faire confiance à 100% à Dieu dans sa parole. Et c'est tout le sens du chapitre 8 ici. Il commence par « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. » Et puis, Moïse rappelle l'expérience du désert et il dit dans cette expérience, Dieu vous a fait passer par des temps difficiles pour vous montrer que vous avez besoin de sa parole pour vivre. Vous ne pouvez pas vivre sans sa parole. Il a dit 40 années dans le désert, ça a été 40 années dans le désert. Il a dit, il a décrété que tes chaussures ne vont pas s'user, tes chaussures ne se sont pas usées. Tu es resté 40 années sans avoir de besoin d'aller dans les supermarchés acheter des chaussures tout le temps. Donc voilà, il a dit, Dieu, il a montré que dans la précarité, il a pris soin parce que par sa parole, il a décrété des choses. Il veut que le peuple apprenne cela. Et ça, c'était le second objectif de Dieu dans le temps de précarité. Apprendre au peuple à vivre des paroles de Dieu, à vivre de sa promesse, à vivre de sa direction. Et c'est ça qu'on a besoin, de faire confiance à Dieu en toutes choses. Comme on avait appris dans la question vérité fondamentale sur la providence de Dieu, parce que vous vous rappelez, on avait dit en croix, la connaissance de la providence de Dieu nous est-elle bénéfique ? Eh bien, on avait dit ceci, que la connaissance de la providence de Dieu nous est bénéfique en ce qu'elle nous permet d'être patient dans l'adversité, on pourrait dire dans la précarité comme le peuple ici, hein, reconnaissant dans la prospérité, c'est ce que Dieu dit, quand vous serez dans la prospérité, bénissez l'Éternel. Donc vous êtes reconnaissant dans la prospérité. Et puis, que vous soyez confiant, quoi qu'il arrive, en notre bon et fidèle Père. Et c'est ça qu'il dit ici, faire confiance à Dieu qu'on soit dans la précarité, qu'on soit dans la prospérité, faire confiance à Dieu dans sa parole, dans tout ce qu'il, nous dit. Alors, quelques points d'application pour nous, avons compris ici. Premièrement, le cœur, notre cœur, s'attache plus facilement au don de Dieu qu'à Dieu lui-même. Ça, c'est naturellement, notre cœur, il est ainsi. Et donc, on s'attache plus facilement au service qu'au maître que l'on sert ici. Et Dieu veut parfois nous faire passer par des situations qui sont parfois difficiles, douloureuses pour nous, mais qui ont pour but de nous rapprocher de lui, de nous permettre de lui faire davantage confiance, de nous appuyer davantage sur sa parole et sur ses promesses. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que si Dieu agit ainsi envers nous, c'est que probablement les temps difficiles sont plus propices aux apprentissages spirituels que les temps de prospérité. Les temps où les choses sont difficiles sont plus propices à apprendre les vérités spirituelles que les temps de prospérité. Et souvent, on voit les serviteurs de Dieu dans la Bible qui sont dans des situations difficiles, des Jérémie, l'apôtre Paul, le peuple ici d'Israël, que Dieu soumet à ses pressions, mais il dit dans le but de leur montrer, de leur apprendre des choses, hein, afin de t'apprendre, hein, dit le verset 3. Et puis, rendre grâce à Dieu dans le temps présent, c'est un rempart contre l'oubli. C'est-à-dire, si on rend grâce à Dieu pour toute chose, eh bien, on se garantit contre l'oubli de l'action de Dieu dans le passé et contre la tentation de s'attribuer la gloire de Dieu dans la gloire qui revient à Dieu seul, quand les choses vont mieux. Donc, je redis ça. Et rendre grâce à Dieu dans le temps présent, c'est un rempart contre l'oubli de Dieu, contre l'oubli de l'action de Dieu dans le passé, et puis contre la tentation de s'attribuer la gloire qui revient à Dieu seul. Parce que Dieu dit, tu béniras, tu diras pas que c'est ta force, tu diras que c'est grâce à Dieu. Et donc, le fait de rendre grâce, eh bien, permet de maintenir les choses en leur bonne place. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, ici, hein, c'est que notre âme, elle est plus importante pour Dieu que notre confort matériel. Si Dieu permet que on passe par des situations parfois compliquées, difficiles, où il nous enlève parfois certaines choses que nous avons, eh bien, c'est parce qu'il est plus préoccupé par notre âme que par notre bien-être, je veux dire, matériel, confortable, fait qu'on ait des choses. Hein. 40 années dans le désert, je ne sais pas combien, bon, c'était une nouvelle génération qui rentrait dans la prospérité, mais voilà, Dieu n'a pas hésité à faire passer 40 années pour apprendre des choses à son peuple, parce que ce qui le préoccupe le plus, c'est ce qu'il aura appris spirituellement, plus que ce qu'il aura matériellement. Donc c'est une vérité que nous devons maintenir dans notre esprit. Dieu veut faire notre éducation spirituelle. Et puis dernier point, la vraie sécurité est Dieu et jamais les circonstances. La vraie sécurité, c'est en Dieu qu'elle est. Elle n'est jamais dans les circonstances. Ni dans les bonnes circonstances, ni dans les mauvaises circonstances. Des mauvaises circonstances sans Dieu, c'est mauvais. Des bonnes circonstances sans Dieu, c'est aussi mauvais pour nous. Ce qui est important, c'est d'être avec Dieu et d'être en Dieu. Et donc de se souvenir toujours de ce que l'Éternel a fait. Et l'apôtre Paul disait, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, hein, il appelait le peuple à se souvenir, à ne pas oublier, hein, qu'ils étaient, qu'il y a une application spirituelle purement aussi ici, ce qu'il était avant de connaître Christ. Souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là, sans Dieu, sans espérance, étranger. Il dit, nous le chantons souvent, n'est-ce pas? Mais par le sang de Jésus, nous avons été maintenant rapprochés. Mais il dit, n'oubliez pas de ce que vous étiez, hein, cette précarité spirituelle dans laquelle vous vous trouviez. Et puis, souvenez-vous par qui vous êtes maintenant dans cette prospérité spirituelle. Par Jésus-Christ, par l'œuvre qui a été accomplie à la croix du Calvaire. Et comment est-ce que ça a été possible? Eh bien, c'est la délivrance que Dieu a accordée au peuple d'Israël. C'est la même qu'il nous a accordée aussi. par Jésus-Christ. Et ça doit être le centre de notre adoration, de notre reconnaissance. Se souvenir toujours que c'est par Jésus-Christ, par le sang précieux, le sacrifice accompli à la croix du calvaire, que nous sommes passés de la mort à la vie. Et que Dieu, ce qu'il fait en nous, c'est qu'il œuvre de manière à ce que ce qu'il a commencé, eh bien, il l'amène à perfection pour le jour de Christ. Et cette pensée doit rester toujours, toujours, toujours avec nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à ne point l'oublier. Surtout dans cette période qui vient de Noël où on va commencer à avoir la tête qui tourne dans tous les sens avec des choses, on peut risquer d'oublier et d'être détourné de l'essentiel. Que le Seigneur nous aide dans cela. Voilà, on va prendre quelques sujets de